puisqu'il est pile 18h et c'est à vous Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'ouragan Irma cause d'importants dégâts sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin dans les Antilles. Une cellule de crise est activée au ministère de l'Intérieur. Nous ferons un point sur la situation avec Marie-Pierre Véraud. À 2 semaines des élections sénatoriales, les associations de maires dénoncent les méthodes du gouvernement et réclament un moratoire sur la baisse des emplois aidés. De leur côté, les associations de lutte contre le mal-logement se mobilisent contre la baisse des APL. Le sort des réfugiés Rohingyas fuyant la Birmanie émeut le monde musulman. En Indonésie, des milliers de personnes manifestent pour dénoncer les violences dont est victime cette population. Alors que le Parlement de Catalogne entérine le principe d'un référendum sur l'indépendance, le gouvernement espagnol saisit la Cour constitutionnelle pour qu'elle invalide cette loi. Correspondance de Mathieu de Taillac. Édouard Philippe et plusieurs ministres se rendront ce soir à la cellule de crise activée au ministère de l'Intérieur pour mesurer l'impact de l'ouragan Irma dans les Petites Antilles. Ouragan d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique, Irma s'est abattue sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir.
Les habitants des deux îles avaient été appelés à rester confinés. On sait, en tout cas pour l'instant, que les dégâts sont importants.
Oui, certains habitants parlent même de l'arrivée d'Irma comme de l'explosion d'une bombe. Il faudra sans doute encore plusieurs heures avant d'établir un bilan, notamment humain, du passage de l'ouragan sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ne serait-ce que parce que les communications sont extrêmement difficiles avec les îles. Mais d'ores et déjà, le bilan matériel du passage de l'ouragan le plus puissant qu'aient connu les Antilles semble très lourd. Les deux îles ont été dans l'œil du cyclone durant 1h30 pour Saint-Barthélemy. Des vents violents frôlant les 300 km/h ont emporté arbres, toitures, dont le toit de la préfecture à Saint-Martin, celui de l'hôpital et plusieurs toitures de la gendarmerie. La caserne des pompiers de Saint-Barthélemy est-elle inondée sous 1 mètre d'eau? Le personnel s'est réfugié à l'étage et les engins sont inutilisables. Même le matériel de mesure de Saint-Barthélemy a été balayé. Des pluies diluviennes, des vagues immenses de 12 mètres ont submergé les littoraux. Des inondations dans les quartiers les plus bas où jusqu'à 3 mètres d'eau étaient redoutés. À Saint-Martin, rapporte le ministre de l'Intérieur, 4 bâtiments qui étaient les plus solides se sont effondrés, ce qui laisse penser que les plus rustiques n'ont pas résisté. Les rares informations sont alarmantes, ajoute le porte-parole du gouvernement. Des images de la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin montrent des véhicules submergés, des bateaux fracassés, des palmiers arrachés. L'électricité est coupée dans les deux îles. La ministre des Outre-mer a fait part de son inquiétude sur le sort de quelques 7000 personnes qui ont refusé de quitter leurs habitations pourtant proches des littoraux. Des équipes de la sécurité civile avaient été prépositionnées. De nouvelles équipes vont partir en renfort. Ce phénomène hors norme risque de se reproduire. Les scientifiques estiment en effet que le dérèglement climatique et le réchauffement des eaux devraient produire des tempêtes de plus forte intensité dès lors que les ouragans comme Irma se nourrissent de l'énergie dégagée par les océans.
Merci Marie-Pierre Véraud et la ministre des Outre-mer Annick Girardin part ce soir pour la Guadeloupe pour faire le point sur la situation à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Vous le disiez Marie-Pierre, l'augmentation de l'intensité des cyclones de l'Atlantique Nord a un lien direct avec le réchauffement climatique. Pour lutter contre ce réchauffement de la planète, le plan climat présenté en juillet prévoit notamment de laisser les énergies fossiles dans le sous-sol. Ce matin, en Conseil des ministres, Nicolas Hulot a présenté son projet de loi mettant fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures. Bonsoir Véronique Rebérotte.
Bonsoir.
Le ministre de la Transition écologique et solidaire se fixe 2040 comme échéance. Alors précisons que la production française de pétrole et de gaz est modeste. Elle représente 1% de notre consommation. Cette interdiction est donc surtout symbolique et à vrai dire pas très ambitieuse, quoi qu'en dise Nicolas Hulot.
Oui, alors le diable se cache souvent dans les détails et selon les ONG environnementales, le projet de loi de Nicolas Hulot, tel qu'il est formulé actuellement, est bancal. Il permet par exemple la prolongation des permis d'exploration d'hydrocarbures qui sont en cours. Le ministre de la Transition écologique s'en est expliqué ce matin.
Pour clarifier aussi une situation dont j'ai hérité. Car pendant que je vous parle, la France est sous astreinte dans beaucoup de dossiers, de permis qui ont été accordés mais qui n'ont pas été mis en œuvre. Et ces astreintes représentent des sommes qui sont, croyez-moi, pas négligeables. Donc tous les droits acquis seront honorés. Mais on s'en tiendra là.
C'est ainsi que le projet d'exploration offshore, donc en mer au large de la Guyane française menée par Total, sera prolongé bien au-delà de 2040. Et ce ne sera pas le seul, selon Juliette Renaud de l'ONG Les Amis de la Terre.
Il y a déjà quelques concessions qui existent actuellement qui vont au-delà de 2040. C'est vrai, il y en a moins de 10, donc, mais il y en a déjà quelques-unes qui nous emmènent en delà de 2040. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il y a une trentaine de permis de recherche qui sont en cours de validité actuellement et qui pourront être prolongés. Donc déjà, un permis de recherche, c'est donné pour 5 ans, prolongeable 2 fois, donc ça nous amène à 15 ans. Et Dans le code minier actuel, on a ce qu'on appelle le droit de suite, qui fait qu'automatiquement, une fois qu'une entreprise a un permis de recherche, elle a le droit au permis d'exploitation. Et donc ça, les concessions, c'est donné pour 25 à 50 ans. Et donc ça nous emmène bien au-delà de 2040. Le droit de suite est un droit qui, pour l'instant, semble intouchable vu les pressions des lobbies.
Déception donc sur cette position d'exemplarité adoptée par la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique, qui reste pour les ONG pour l'instant au milieu du guet avec cette loi. L'avancée bien sûr la plus significative du texte de loi, c'est l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation des gaz et pétrole de schiste sur le sol français. Quelle que soit la technique utilisée, il n'y aura donc pas de gaz de schiste français. Cette loi sur l'interdiction de la production d'hydrocarbures en France d'ici 2040 devrait être adoptée d'ici la fin de l'année.
Véronique Rebérotte. Une réforme en profondeur se profile à la SNCF. Dans un entretien publié par une revue interne du groupe ferroviaire et relayé aujourd'hui par Le Monde, Emmanuel Macron dévoile ses ambitions. Il envisage la suppression rapide des régimes spéciaux de retraite. Et à plus long terme, il estime que la SNCF pourrait s'ouvrir à d'autres domaines de transport que le chemin de fer. Interrogé à la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a précisé que le président n'avait fait qu'avancer des pistes. Mais une proposition de loi est sur la table, Anne Lorchouin.
Oui. Avancé aujourd'hui par deux sénateurs de droite qui craignent que l'entreprise ferroviaire ne laisse passer le tournant de l'ouverture à la concurrence. Une échéance de Bruxelles qui stipule, on le rappelle, que les TER doivent être en concurrence dès le 3 décembre 2019. Pour les TGV, ce sera 2021. Le gouvernement présentera de toute façon un grand texte sur les transports l'année prochaine qui abordera donc tous les défis auxquels se prépare déjà la SNCF dans le cadre de cette ouverture à la concurrence. Donc la question sensible du régime spécial des retraites des cheminots sera, elle, abordée en même temps que le projet de réforme globale des retraites. C'est ce que répète en tout cas le porte-parole du gouvernement. Quoi qu'il en soit, cette ouverture à la concurrence est l'occasion pour le gouvernement de réformer en profondeur l'organisation du ferroviaire en France, sur tous les plans. Nouvelle organisation du travail, nouveau statut, mobilité des agents, rénovation des infrastructures, mais aussi le sujet crucial du traitement des données numériques et de la agrégation des mobilités, autrement dit, comment l'entreprise peut offrir ses services sur tous les types de transports, du train au covoiturage, sans se faire doubler par les Google et autres Facebook. Et puis, évidemment, cette réforme des régimes spéciaux de retraite qui permet à certains cheminots de bénéficier de pensions dès 52 ans ou de partir à 57. Sur ce point, les propos rapportés d'Emmanuel Macron à une dizaine d'agents de la SNCF en juillet dernier sont clairs et assez précis. L'État pourrait envisager de reprendre la dette de la SNCF, plus de 44 milliards d'euros à ce jour, contre l'abandon de ces régimes spéciaux, ce dès l'année prochaine, sauf pour les cheminots qui seront à moins de 5 ans de la retraite. Ce grand deal, comme le nomme Emmanuel Macron, reprise de la dette contre abandon des avantages, les syndicats de cheminots n'y adhèrent pas du tout, mais ils restent mesurés, leur priorité restant pour l'instant la mobilisation contre la réforme du Code du travail.
La déception et la colère des maires de France, les associations qui les représentent font front commun pour réclamer un moratoire sur la baisse des emplois aidés et pour dire qu'ils ne peuvent pas aller plus loin dans les efforts d'économie, Christine Moncla.
Grande, petite, moyenne, rurale ou de banlieue, toutes les tailles de villes étaient représentées ce matin pour cette rentrée de ce que l'on appelle le bloc communal. Ensemble, ces élus dénoncent, je cite, « la brutalité de décisions prises sans concertation pendant l'été ». Ces emplois aidés, disent-ils, financent des postes essentiels au rouage des communes, comme les emplois dans le périscolaire. Ils réclament en effet au moins un moratoire pour avoir le temps de faire un état des lieux des besoins avant de procéder à d'éventuelles coupes. Le gouvernement voudrait supprimer 140 000 de ses emplois aidés cette année. C'est déjà la deuxième fois, en quelques semaines à peine, que les élus locaux se braquent ainsi contre le nouvel exécutif. Au début de l'été, Emmanuel Macron avait hérissé l'ensemble des maires de France lors de la conférence des territoires en annonçant une baisse supplémentaire des dotations de l'État. En cette rentrée, même réaction pour les mêmes motifs, mais avec un élément de plus dans le paysage politique, les élections sénatoriales de fin septembre. La colère des territoires pourrait en effet contrarier les ambitions présidentielles, car le mouvement En Marche ne dispose quasi pas d'élus locaux. Or, ce sont eux qui vont désigner les futurs sénateurs.
Elles aussi sont remontées contre les méthodes du gouvernement. Les principales associations de lutte contre le mal-logement réclament le retrait immédiat de la mesure prévoyant une baisse des APL, les aides personnalisées au logement. Et plus généralement, la politique du logement du gouvernement, qui doit être précisée mercredi prochain en Conseil des ministres, suscite leur inquiétude, Manuel Ruffez.
Une décision purement technocratique, pilotée par Bercy, sans rapport avec ce que vivent les gens. Voilà l'avis tranchant de ce collectif d'associations sur la baisse des APL. Les APL, dit son porte-parole, c'est ce qui permet souvent aux plus fragiles de garder la tête hors de l'eau. Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
C'est une mesure à la fois aveugle, injuste, qui fait complètement abstraction de ce que vivent les gens. Donc il faut revenir en arrière de ces décisions. Et après, on peut travailler sur comment on fait baisser les prix des loyers, et à terme peut-être les APL, comment on fait baisser les prix dans le parc privé, comme dans le parc social. Mais on ne peut pas inverser les logiques. C'est-à-dire dire d'un côté, on va pénaliser les plus fragiles, et puis on espère que ça va produire une baisse. Non.
Et puis il y a eu aussi, au cœur de l'été, des annulations de crédits destinées à produire du logement social. Alors le collectif se dit inquiet, préoccupé, espère des annonces, en particulier la semaine prochaine avec le projet de loi sur le logement. Florent Guéguin, le directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité.
Nous demandons clairement au président de la République et au gouvernement un rééquilibrage social de cette politique. Parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation où de plus en plus la population a l'impression que ce gouvernement ne gouverne que pour quelques-uns. Et que pour les précaires, pour les chômeurs, pour les personnes mal logées, ce quinquennat, il a plutôt mal démarré.
Le collectif le rappelle donc, l'État, dit-il, a la responsabilité de protéger les plus fragiles.
Tout va pour le mieux entre le chef de file de la France insoumise et le secrétaire général de la CGT, c'est en tout cas ce qu'assure Jean-Luc Mélenchon. Il a rencontré Philippe Martinez à l'Assemblée nationale pour discuter des deux journées de mobilisation prévues contre les ordonnances réformant le Code du travail, celle du 12 septembre lancée par la CGT et celle du 23 à l'initiative de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Personne n'est fâché avec personne. Bon, voilà. Si on donne l'impression que c'est l'appelade générale, ça ne va pas jouer pour la mobilisation. Que la Confédération syndicale n'appelle pas à la manifestation du 23, alors là, voilà qui n'est vraiment pas une nouvelle, c'est tout à fait banal, puisque dans le passé, toutes les manifestations auxquelles nous avions appelé du temps du Front de Gauche, pas une seule fois, une quelconque confédération n'a appelé y venir. Par contre, des syndicats, par ailleurs confédérés, qui y appellent, oui, ça s'est déjà vu, et peut-être que ça se verra cette fois-ci. Mais c'est pas l'objectif essentiel. L'objectif essentiel, c'est d'obtenir un effet de vague roulante, une derrière l'autre, partant à l'assaut de la muraille. Donc c'est ce qui va se passer. Nos deux manifestations sont séparées par 11 jours. Le 23 participera d'une séquence qui ne va pas s'arrêter le 23. Bien sûr qu'on en a pris l'initiative, mais c'est normal qu'on le fasse. Enfin, si nous ne le faisons pas, qui va le faire au plan politique? Qui est la première force qui marche en tête de cette famille? C'est nous.
Jean-Luc Mélenchon au micro de Sophie Delpont et puis les étudiants de l'UNEF annoncent qu'ils se joindront à la mobilisation du 12 septembre. Une enquête antiterroriste est déclenchée après la découverte de composants pouvant entrer dans la fabrication d'explosifs à Villejuif dans le Val-de-Marne. Alertés par un homme travaillant dans cet immeuble, les démineurs ont notamment trouvé des bonbonnes de gaz et du fil électrique. Deux hommes ont été interpellés en début d'après-midi au Kremlin-Bicêtre. Le gouvernement espagnol parle d'un coup contre la démocratie et il se lance dans des démarches juridiques pour empêcher l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Et à Barcelone, la session plénière du Parlement régional a viré à la bronca aujourd'hui. La majorité indépendantiste a admis à l'ordre du jour l'examen d'une loi permettant de convoquer ce référendum d'autodétermination. Les indépendantistes veulent qu'il se tienne le 1er octobre. L'opposition juge ce scrutin illégal. La correspondance de Mathieu de Taillac.
Le Parlement catalan était coupé en deux avant même de se prononcer sur le fond de la question. D'un côté, une majorité exiguë d'indépendantistes, 72 députés sur un total de 135, réclament de modifier l'ordre du jour à la dernière minute pour inclure l'examen d'une loi permettant de convoquer un référendum d'indépendance. Ils veulent en plus que la loi soit examinée par une procédure spéciale, sans amendement à la totalité, sans consultation a priori sur sa conformité avec la législation. La majorité adopte la modification de l'ordre du jour. L'opposition, hostile au référendum, crie au scandale, à la violation de ses droits et du règlement. Et à Madrid, qui s'oppose de toutes ses forces au référendum du 1er octobre, la numéro 2 du gouvernement réagit. Soraya Sanz de Santa Maria parle d'un coup de force et d'un coup de pied contre la démocratie. Elle annonce aussi que le gouvernement a saisi la Cour constitutionnelle pour que soit annulée l'inscription à l'ordre du jour de la loi sur le référendum. La présidente du Parlement catalan sera également poursuivie et la loi elle-même devrait être suspendue. Et après, Après, c'est l'inconnu. Les indépendantistes, tant au Parlement qu'au gouvernement catalan, ont annoncé qu'ils ne prendraient pas en compte les interdictions de Madrid, qu'ils iraient jusqu'au bout dans l'organisation du référendum. Un gouvernement contre l'autre, c'est ce qu'on appelle en Espagne le choc des trains, l'affrontement ne fait que commencer.
Et puis une autre nouvelle d'Espagne, les tests ADN ont parlé. La femme qui avait obtenu l'exhumation du peintre Salvador Dali pour une recherche en paternité n'est pas sa fille. Nous nous rendons maintenant en Italie. Il y a un an, la Commission européenne annonçait la création d'un corps européen de solidarité. Il s'agit de jeunes de 19 à 30 ans qui partent en mission au sein de l'Union européenne et qui s'engagent dans des projets de société comme l'aide aux migrants, la construction d'abris ou encore la protection de l'environnement. L'idée, c'est de développer chez ces jeunes volontaires le sentiment de citoyenneté européenne. Ils sont plus de 1000 aujourd'hui sur le terrain. Exemple de cette solidarité à Norcia, en Italie, où l'Ax Milota s'est rendu un an après le tremblement de terre qui a touché la région.
D'immenses grues soulèvent encore des pierres au milieu des décombres. Nous sommes sur la place San Benedetto. Seule la façade de la basilique du XIIe siècle tient toujours debout. Le reste s'est écroulé lors du tremblement de terre du 30 octobre 2016. Casque de chantier sur la tête, des volontaires du Corps européen de solidarité trient des pierres. Canel Kraft est française, elle a 28 ans.
Ils ont enlevé des pierres de la basilique en fait, et donc on a aidé à les séparer parce qu'ils veulent garder vraiment les pierres d'origine pour reconstruire la basilique.
Un travail de reconstruction qui prendra des années. Les 16 volontaires, eux, sont là pour un mois. Ils participent également à la reconstruction du lien entre les habitants grâce à des animations avec les personnes âgées et les enfants. À la crèche, les petits peignent des drapeaux européens. Eux aussi ont été marqués par le séisme, constate Canel Kraft.
Quand on a fait des dessins avec les enfants, avec des sprays dans leur square, il y en a beaucoup qui ont écrit la date du tremblement de terre. Et après, on est allé voir un spectacle de théâtre aussi avec des jeunes enfants. Et c'est vrai qu'ils avaient fait une pièce de théâtre qui incluait un tremblement de terre.
Sur la place, les commerçants qui ont pu garder leur boutique ouverte regrettent les nombreux touristes d'avant la catastrophe. Giancarlo vit ici depuis plus de 20 ans. Il regarde les ruines avec émotion et montre une carte postale des lieux avant le tremblement de terre.
Il ne reste que la façade. Je vais vous faire voir comment était la place avant. Attendez, voilà, c'était comme ça avant.
Les volontaires organisent un tournoi de cartes le soir avec les personnes âgées. Malgré la barrière de la langue, le contact passe bien. Pour le commissaire européen à la jeunesse, Tibor Navracsics, venu saluer les volontaires à Norcia, les jeunes ont réussi leur mission.
Ici, on a la sensation de faire partie d'une même communauté. Je pense que la notion d'identité européenne et le sentiment d'appartenance à l'Europe sont en train de grandir.
Erika est de passage dans le village. Elle voulait voir à quoi ressemble Norcia aujourd'hui et a rencontré les volontaires du Corps européen de solidarité.
Je vis dans la région, je la connais bien. Je vois que la place est en train d'être rénovée. Je suis contente de cette initiative européenne et que l'Europe s'intéresse à nous.
Les échafaudages resteront encore très longtemps sur les édifices du patrimoine historique de Norcia. Ce soir, les volontaires européens rejoignent leur tente avant de recommencer à trier des pierres demain.
La crise des réfugiés Rohingya commence à alarmer la communauté internationale. En 12 jours, 150 000 personnes issues de cette minorité musulmane ont fui le nord-ouest de la Birmanie pour rejoindre le Bangladesh. L'armée birmane ne fait pas toujours la différence entre rebelles armés et civils. Et le Bangladesh a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur de Birmanie pour protester contre le minage de la zone. La Turquie qualifie de génocide les violences dont sont victimes les Rohingyas et plusieurs pays musulmans se mobilisent maintenant. En Indonésie, les manifestations de soutien se multiplient depuis ce week-end. Et pour l'instant, ces rassemblements de protestations sont majoritairement l'œuvre de groupes religieux radicaux. Plus de précisions avec Joël Brunner, le correspondant de RFI et France Culture à Jakarta.
À Jakarta, la rue de l'ambassade de Birmanie a beau avoir été bouclée, cela n'a pas empêché environ 4000 manifestants de se réunir quelques mètres plus loin pour exprimer leur colère vis-à-vis des dirigeants birmans. Depuis qu'un cocktail Molotov a été envoyé sur cette même ambassade ce week-end, la sécurité a été renforcée. Et ce mercredi, au milieu du quartier cossu de Menteng, 6000 policiers et une armada de fils de fer barbelés protégeaient ainsi l'accès au lieu. Depuis quelques jours, l'exode de la minorité musulmane Rohingya provoque des réactions de soutien et de rancœur de la part de la population du pays à majorité musulmane le plus peuplé au monde. Aujourd'hui encore, des manifestations se sont déroulées dans de nombreuses villes indonésiennes, en particulier sur les îles de Java, Sumatra et Bornéo. Dans la rue, les hommes qui manifestent sont tous de blanc vêtus sous leurs calottes, tandis que les femmes portent des voiles plus couvrants que la moyenne des indonésiennes. Car à l'heure actuelle, ces rassemblements sont essentiellement le fruit d'organisations islamiques rigoristes qui s'appuient sur l'aspect religieux du conflit birman en cours entre bouddhistes et musulmans. Sur le terrain diplomatique, Retno Marsudi, la ministre des Affaires étrangères indonésienne, s'est-elle rendue à Rangoon dès le début de semaine afin d'y rencontrer les dirigeants birmans, soulignant l'importance pour les pays d'Asie du Sud-Est, Indonésie en tête, de trouver une solution à la crise humanitaire en cours dans la région.
Dans l'Hexagone, le temps sera plutôt gris demain matin. L'après-midi, les nuages s'attarderont au nord de la Loire. Le soleil l'emportera plus au sud. Les températures maximales, 18 à 24 degrés jusqu'à 29 dans le Sud-Est.